Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Sophie Echan est installée. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite, votre journal. 6h sur Europe.
Évidemment, extrêmement content et enthousiaste d'y retourner, mais c'est pas la même disposition. La première fois, j'étais un débutant et là, je suis un vétéran.
Décollage imminent pour le vétéran Thomas Pesquet. Dans quelques heures, l'astronaute français s'envolera pour l'ISS. Nous serons en Californie, près du siège de SpaceX avec notre envoyé spécial. Dans ce journal, rentrée scolaire en demi-jauge lundi pour certains collégiens des zones les plus touchées par le Covid. Une catastrophe pour les syndicats. Le désastre économique pour la filière viticole après les épisodes de gel. Et puis une résistance normande à Hollywood, sa vie mouvementée, racontée dans un documentaire nommé aux Oscars.
À suivre les sports et puis mon invité inattendu qui va nous emmener en apesanteur. Elle a eu la chance de l'expérimenter et même de danser en apesanteur. C'était à bord d'un avion et c'était avec un certain Thomas Pesquet. Elle va nous raconter tout ça à 6h15. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc le grand jour pour Thomas Pesquet. Avec deux Américains et un Japonais, ils s'envoleront tout à l'heure pour la Station Spatiale Internationale depuis le Cap Canaveral en Floride. Mais c'est en Californie, depuis le siège de SpaceX, que sera dirigé et contrôlé le vol. Et c'est là qu'on vous retrouve, Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 sur la côte ouest des États-Unis. Ici, tout le monde est dans les starting blocks.
Oui, tout est prêt ici au siège de SpaceX pour ce second vol de la capsule Dragon propulsée par 9 moteurs qu'Elon Musk a baptisé Merlin car leur bruit, dit-il, l'enchante et une fusée Falcon 9 qui décollera tout à l'heure à 11h49 heure de Paris depuis le mythique pas de tir 39A à Cap Canaveral en Floride. Le centre de contrôle ultra moderne, entièrement vitré, est situé à l'intérieur même d'un immense hangar dans lequel Boeing construisait dans les années 80 les fuselages des 747. Une équipe de 25 contrôleurs est déjà là, scrutant le ciel de Floride et les paramètres de la fusée. Sur d'immenses écrans de télévision derrière eux, quelques dizaines d'employés seulement sur les 13 000 qu'emploie la firme aujourd'hui. Ils sont tous vaccinés, testés et masqués. Premier opérateur spatial privé, SpaceX a déjà effectué plus de 115 lancements en 20 ans et ses équipes fabriquent ici notamment les propulseurs au rythme incroyable d'un par jour avec 3000 sous-traitants dans tous les États-Unis. Sur le terrain, en Floride, Thomas Pesquet et ses trois collègues astronautes viennent d'être réveillés. Ils prennent actuellement leur petit déjeuner. Dans quelques dizaines de minutes, c'est à bord de deux Tesla blanches qu'ils rejoindront la base de lancement avant de s'envoler pour la Station Spatiale Internationale qu'ils atteindront demain en milieu de matinée.
Merci Benoît Clerc en ligne de Californie pour Europe 1.
Vous restez avec nous, hein, Benoît. On va vous retrouver tout au long de la matinale pour suivre ces dernières heures avant le décollage. On retrouvera aussi notre spécialiste espace, Laure d'Autriche. 11h49 pour le décollage tout à l'heure. C'est dans 5h45, quelque chose comme ça.
Direction Mars à présent où le petit hélicoptère Ingenuity cumule les prouesses avec un deuxième vol réussi sur la planète rouge, plus long et plus haut que le premier lundi, 52 secondes à 5 mètres de hauteur. Et pour la première fois, l'appareil a effectué un mouvement latéral.
Allez, on va redescendre sur Terre. Le gouvernement a précisé le protocole sanitaire en vue de la rentrée scolaire de lundi.
Avec plus de tests salivaires dans les écoles, des autotests pour les lycéens chaque semaine. En revanche, il y a une mesure qui inquiète les syndicats. C'est le retour des demi-jauges pour les collégiens de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Une aberration pour Myriam Ménez, présidente de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public dans le Val-de-Marne.
Pour ces élèves, on ne sait absolument pas par quoi ça va se traduire. Ça peut très bien être un jour sur deux, un matin, un après-midi. Si c'est comme ce que nous vivons actuellement sur les lycées, pour les familles, sachant que là, on est sur des enfants plus jeunes, bien souvent, ça veut dire qu'il faut rester avec eux, qu'on ne peut pas les laisser à la maison seuls. Ça veut dire que les familles, il va falloir qu'elles s'organisent, qu'elles prennent un jour sur deux, qu'elles soient en télétravail, si c'est possible ou pas. Enfin, ça va réellement être ingérable. Et en plus, dans ce principe du semi-présentiel, comme les enseignants en parallèle sont avec l'autre groupe, ils n'assurent absolument pas de cours à distance. Donc c'est vraiment uniquement le cours en présentiel qui compte. C'est donc plus que 50% de cours pour les enfants. Et donc ça va se traduire comme en lycée, avec seulement 50% du temps à l'école et 50% à la maison, à rien faire, devant la télé. Pour ces gamins-là, c'est une véritable catastrophe.
Myriam Ménès de la PEP, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas. Et puis dès demain, tous les Français de plus de 55 ans pourront être vaccinés avec le vaccin Janssen. 200 000 doses ont été livrées la semaine dernière.
Il est 6h05 sur Europe 1. Les premiers bilans chiffrés commencent à tomber après les épisodes de gel qui ont décimé les vignobles français et ils ne sont pas bons du tout.
La récolte pourrait être amputée d'un tiers selon les premières estimations. Et Damien Mestre, les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros.
Oui, le manque à gagner se situerait entre 1,5 et 2 milliards d'euros pour la filière viticole. Les chiffres sont donc très importants et ils sont provisoires parce qu'on ne sait pas encore comment la vigne va repousser ou bien quelles seront les conditions climatiques jusqu'aux vendanges. Mais une chose est sûre, ces pertes sont historiques, explique Basile Faucheux des jeunes agriculteurs.
L'ensemble du vignoble français a été touché et ça c'est quelque chose à prendre en compte réellement parce que c'est déjà arrivé hein, d'avoir des grandes pertes comme ça, mais c'était plutôt dans une ou deux régions viticoles, mais pas sur l'ensemble du vignoble français. Et en plus, ça arrive après une année très compliquée à cause du Covid.
10 régions sur 13 sont touchées. Il y aura donc beaucoup moins de millésimes 2021 chez les cavistes l'année prochaine. Selon les projections, la récolte pourrait s'élever à 32 millions d'hectolitres. Pour avoir un ordre de grandeur, elle était l'an dernier de plus de 46 millions.
Les précisions de Damien Mestre. À l'étranger, les médecins d'Alexei Navalny l'appellent à cesser sa grève de la faim au plus vite, alors que son état de santé continue de se dégrader. Ses médecins craignent pour sa vie. Emmanuel Macron est au Tchad aujourd'hui pour assister aux funérailles d'Idriss Déby. L'ancien président est mort le week-end dernier, juste avant d'être réélu, tué au front par des rebelles.
Et puis on va clore ce journal avec l'histoire de Colette. Colette Marin-Catherine, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Elle a 93 ans aujourd'hui.
Ancienne résistante, elle a perdu son frère, déporté et mort dans un camp de concentration allemand. Des dizaines d'années après, Colette est retournée sur les lieux. Et c'est ce pèlerinage qui est raconté dans un documentaire qui porte son nom, Colette. Documentaire nommé aux Oscars. La cérémonie aura lieu dimanche à Los Angeles. Mais c'est très loin d'Hollywood que Romain Oquet a rencontré la nonagénaire. C'est à Caen. Et elle lui a tendu son micro pour recueillir son précieux témoignage.
Jean-Pierre a été arrêté en 1943 par la Gestapo pour finir au redoutable camp de Dora. Et c'est là qu'il est mort. Il a tenu le coup 2 ans.
Vous avez une photo de votre frère dans les mains.
Voilà, ben regardez ce beau gars qui avait... Là, il avait 14 ans. Il était vraiment brillant, très volontaire. Quand il avait décidé de traverser un mur, tant pis pour le mur. J'ai mis 30 ans ou 40 ans à oublier. Tout ce qui a réveillé les souvenirs en moi, c'est le documentaire de Doc Colette.
Ce documentaire, donc, ça raconte votre pèlerinage quand vous êtes allé pour la première fois en Allemagne dans le camp de concentration où votre frère est mort.
Absolument. Je savais très bien que je ne serais pas moi-même dès que j'aurais passé la frontière allemande. Et c'est vrai.
Qu'est-ce qui a changé en vous ?
Ça rouvre de nouvelles plaies. Quand on raconte une déportation, les paroles, ça s'envole. Mais quand vous avez touché du doigt la porte du crématorium, vous ne l'oubliez pas. J'ai posé des fleurs juste à l'endroit où il est mort. Vous ne l'oubliez pas. Mais je trouve que ce n'est pas payé cher, simplement pour honorer le souvenir de Jean-Pierre.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre histoire est nommée aux Oscars ?
Je suis vraiment étonnée de l'importance qu'a pris le film. J'ai pas l'habitude de vanter plus haut que mon moulin. Moi, je suis à Caen, dans mon HLM, depuis 31 ans. Oscar ou pas, ça changera rien à mon existence. Et je suis surtout vraiment heureuse qu'on ait réveillé la mémoire de Jean-Pierre.
Voilà le témoignage de Colette Marin-Catherine qui se confiait à Romain Oquet pour Europe 1.
Voilà, on suivra la cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h09.